Merci d'avoir choisi Europe 1, il est 22h. Tout de suite le journal, Lénaïque Monnier.
Le 5 décembre est quelque chose d'étrange. C'est une mobilisation contre la fin des régimes spéciaux.
Le mouvement du 5 décembre, critiqué par Emmanuel Macron, il y voit une journée organisée par ceux qui défendent les régimes spéciaux contre le régime général. Le président qui restait très ferme sur l'objectif de la réforme des retraites. Nous reviendrons aussi dans ce journal sur les échanges tendus entre le chef de l'État et les salariés de Whirlpool un peu plus tôt dans la matinée, toujours à Amiens. Et puis presque un an après l'attentat qui a fait 5 morts et plusieurs blessés, le marché de Noël de Strasbourg a rouvert ce soir sous haute sécurité et avec un message des Strasbourgeois, ne pas céder à la peur.
Il arrivera ce qu'il arrivera, hein. Je veux dire, on ne peut pas non plus tout le temps vivre dans la crainte, sinon après on ne fait plus rien.
Dans ce journal également, cette opération très suivie et réussie, deux sœurs siamoises ont été séparées par des experts en chirurgie pédiatrique à Lyon. On va vous raconter tout ça et puis nous serons au Parc des Princes avec Julien Froment. PSG Lille, c'est en ce moment et Julien, c'est Paris qui est devant.
Exactement, bientôt la demi-heure de jeu. 2-0 pour Paris, but d'Icardi à la 17e et Di Maria à la 31e.
À 22h20, l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Mingang Zhang, directeur général adjoint de Huawei France, sera avec nous. Avant, bien sûr, la bourse et vos prévisions météo très importante pour demain avec Anissa Haddadi.
Europe 1.
Emmanuel Macron achève donc son séjour à Amiens. Le président de la République a donné une conférence de presse qui a pris la tournure d'une explication de texte sur la réforme des retraites. Le chef de l'État a été interrogé sur la prochaine grande journée de grève et de manifestation. Pour lui, c'est un mouvement organisé par ceux qui défendent les régimes spéciaux contre le régime général.
Le 5 décembre est quelque chose d'étrange. Cette mobilisation est avant tout la mobilisation de salariés d'entreprises qui relèvent des régimes spéciaux. Donc c'est une mobilisation contre la fin des régimes spéciaux. Mais c'est l'engagement que j'ai pris devant les Français. Nous sommes en train de rebâtir un système de retraite universel, beaucoup plus équitable et responsable. Dans ce cadre, il est clair que les régimes spéciaux ont tous vocation à retrouver le système universel. Il faut simplement construire le bon rythme, les bonnes modalités, réformer les choses et réussir pour ceux qui sont le plus proches de la retraite à les accompagner. Donc il faut redonner de la visibilité à chacun. Et ça, c'est tout le travail du gouvernement dans les semaines qui viennent.
Dans la matinée, accueil moins chaleureux. Emmanuel Macron a rencontré les salariés de Whirlpool en se rendant sur ce site qui, en 2017, employait 282 personnes. Aujourd'hui, il n'en compte qu'une quarantaine totalement sans travail. Le chef de l'État s'est retrouvé face à des accusations d'avoir été berné par le repreneur. Trop facile de mettre ça sur le dos de l'État, leur a-t-il répondu. Le chef de l'État que vous avez vu sur place, Lionel Gougelot, puisque vous étiez à Amiens ce matin.
Oui, effectivement, et au-delà de cette colère, ces ex-Whirlpool étaient surtout là pour réclamer des comptes au président qui avait soutenu un repreneur défaillant.
Vous savez, cette fameuse reprise, là, Nicolas Decailleux, avec Whirlpool et tout ce qui s'en suit, ça a été un montage entre le gouvernement actuel, entre vous, monsieur Macron, entre la multinationale qui s'appelle Whirlpool et un repreneur véreux qui s'appelle Nicolas Decailleux. Alors, ça vous plaît pas?
Non, non, c'est pas que ça me plaît pas, c'est
mais
que.
Mais c'est surtout
je vois même
pas fait pour vous plaire.
Un face-à-face tendu, vous l'entendez, parfois même très confus. Et puis, c'est François Ruffin, le député de la France Insoumise, qui résume le mieux finalement le sentiment de ses ex-salariés.
Je pense que, monsieur le président, vous grandiriez l'État à admettre que vous avez merdé. À la limite, pas vous personnellement, mais que ça a merdé. Tout le monde pouvait voir que ça allait dans le mur et on n'a pas eu de réponse.
De dire qu'on est face à un constat aujourd'hui d'échec, oui. Et je suis là pour le constater. Est-ce qu'on doit améliorer les choses et le suivi? Oui.
Mais le facteur humain dans tout ça, parce que les ex-Whirlpool et WN ont été traumatisés par cette période. Et ça, on n'en parle pas, en fait.
Moi, ce à quoi je veux qu'on arrive, c'est que tous les anciens Whirlpool retrouvent une activité. C'est pour ça qu'on a mis en place une cellule de suivi.
Emmanuel Macron conclut cette rencontre agitée sur des engagements pour la revitalisation du site, des perspectives d'implantation d'entreprise, mais il n'est pas sûr que cela ait suffi pour atténuer l'amertume des ex-Whirlpool.
Et c'était Lionel Gougelot pour Europe 1. Alors qu'ont retenu les salariés de cette visite? Soulagement, désarroi. Écoutez Corinne, ex-salariée de cette entreprise.
On est soulagé parce que quelque part on a pu lui dire ce qu'on pensait. On a un petit peu vidé notre sac parce qu'on accumule depuis, moi ça fait 2 ans depuis Whirlpool, hein, et j'ai toujours pas retrouvé de boulot d'ailleurs. On avait besoin de lui exprimer notre mécontentement. Il l'a entendu, maintenant il nous a refait des promesses, on espère le revoir dans un an avec le champagne.
Il s'est engagé aussi à ce qu'il y ait des poursuites finalement contre M. Decailleux, le repreneur.
Oui, le plus tôt sera le mieux, là la procédure est engagée, donc le plus tôt sera le mieux, ça soulagera les gens d'un grand fardeau. C'est lui qui qui va payer maintenant. Et j'espère qu'il va morfler autant que les ouvriers.
Voilà Corinne, ex-salariée de l'entreprise Whirlpool, au micro Europe 1 de Lionel Gougelot. Elle était hier soir justement à Amiens avec Emmanuel Macron lorsqu'il a défendu son bilan devant des étudiants et surtout 10 jours après qu'un jeune s'est immolé par le feu à Lyon. Frédéric Vidal était l'invité du Grand Journal du soir. La ministre de l'Enseignement supérieur estime avoir entendu le message des étudiants. Elle assure que le système d'attribution des bourses critiquées sera remis à plat tout au début 2020.
Nous les avons revalorisés, mais ce sur quoi nous sommes d'accord avec l'ensemble des organisations étudiantes, c'est le constat que la façon dont ces bourses sont attribuées ne correspond plus à la réalité d'aujourd'hui.
Mmh. Pour ça,
qu'on revoie
le
barème des bourses, nous y travaillons avec les associations depuis plus de 6 mois.
À quelle échéance ?
Nous allons continuer à y travailler.
Frédéric Vidal, à quelle échéance ?
Tout sera remis à plat, comme nous nous y étions engagés au tout début de 2020. Je crois que c'est important que nous continuions et que nous terminions ce travail de remise à plat pour repenser structurellement en fait, ces systèmes d'allocation. C'est 5,7 milliards d'euros qui sont consacrés aux aides sociales étudiantes en France. Et moi, ce que je regrette, c'est qu'on doit pouvoir faire beaucoup mieux. On peut évidemment rajouter de l'argent, mais je crois que ce qui est important, c'est que cet argent soit mieux distribué et distribué à plus d'étudiants.
Voilà, Frédéric Vidal, invité de David Doucan ce soir pour Europe 1. Le trafic des TGV Nord, très perturbé lundi et mardi. La direction prévoit un TGV sur 2 environ en circulation entre Paris et les Hauts-de-France. Ce mouvement de grève est dû aux nouveaux horaires des trains qui entrent en vigueur le 15 décembre. 4 syndicats demandent des compensations car certains agents vont perdre en rémunération. Demain à 17h sur son site internet, la SNCF publiera les prévisions du trafic. Et puis ça bloquera également mercredi à Paris puisque la FNSEA l'a annoncé cet après-midi. Les agriculteurs se rassemblent. 1000 tracteurs vont converger vers la capitale le matin du 27 novembre. Le marché de Noël de Strasbourg a rouvert ce soir, un peu plus d'un an après l'attentat perpétré par Chérif Chekat. Il y avait eu 5 morts et plusieurs blessés. Bien sûr, en Alsace, personne n'a oublié le soir du drame. Et le dispositif de sécurité a été particulièrement renforcé cette année. Arthur Henbaché.
Oui, avec Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui a parcouru pendant presque 2 heures les allées du marché de Noël, affichant sa sérénité malgré le 11 décembre.
Je n'oublie pas l'attentat terroriste qui a frappé le marché de Noël, qui a frappé Strasbourg, qui a frappé la France l'année dernière. Je n'oublie pas le total engagement de nos forces de sécurité intérieure aux côtés des élus qui ont traqué le terroriste et qui ont neutralisé le terroriste. Et parce que nous n'oublions pas cela, nous avons renforcé le dispositif de sécurité pour que le marché de Noël de Strasbourg se passe bien.
Le ministre a déambulé sous le regard approbateur de Jacqueline, habitante de Strasbourg.
Je trouve que c'est bien qu'il revienne nous voir après ce qui s'est passé l'année dernière. Bon, ben ça changera pas grand-chose, mais disons c'est bien. Ouais. C'est un signal qui nous met là, parce que bon, les gens, ils sont quand même assez angoissés. Hein. Moi, je me dis, il arrivera ce qu'il arrivera. Hein. Je veux dire, on peut pas non plus tout le temps vivre dans la crainte, sinon après, on fait plus rien.
À noter ce chiffre révélé ici ce soir par le ministre, 760, l'ensemble des forces présentes à Strasbourg, 760 policiers, gendarmes, militaires, pompiers, sécurité civile, un niveau de sécurité inédit ici pendant le marché de Noël.
Arthur Henbaché pour Europe 1. Et puis Bilal Taghi lui a été condamné à 28 ans de prison assorti d'une période de sûreté des 2/3. Le parquet réclamait la perpétuité. Bilal Taghi était jugé pour le premier attentat djihadiste en prison en 2016. Il avait tenté d'assassiner 2 surveillants pénitentiaires à l'intérieur de la maison d'arrêt d'Oni. Des centaines de personnes ont rendu un dernier hommage à l'adolescente de 15 ans morte lundi dans l'effondrement d'un pont de Mirepoix-sur-Tarn. Une marche blanche est également prévue demain matin à 10h au départ de la même petite ville. Direction Lyon à présent, où 2 sœurs siamoises ont été séparées avec succès par l'équipe du service pédiatrique de l'hôpital Femmes-Mères-Enfants des Hospices Civils de Lyon. 5 heures de chirurgie, opération qui s'est déroulée mercredi, mais les médecins n'ont communiqué que ce matin. Jean-Luc Bougeon, on se demande ce soir comment vont les 2 fillettes.
Elles vont même bien. L'une, Eyanga, n'a plus besoin de soins à l'hôpital, mais elle y reste quand même pour ne pas s'éloigner trop de sa sœur Bissier, qui, elle, souffre d'un problème cardiaque détecté avant l'opération et pour lequel elle fait ces jours-ci des examens complémentaires. Donc, pas de complications post-opératoires pour les jumelles, désormais c'est comme ça qu'on dit, qui apprennent peu à peu à apprivoiser leur corps désormais autonome. Malgré tout, elles ont encore besoin d'être proches, explique le professeur Pierre-Yves Mur, qui a dirigé l'opération à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants.
Dès le lendemain lendemain de l'opération, elles se sont rapprochées l'une de l'autre. Elles se sont exactement mises dans la même position qu'elles avaient avant la chirurgie. Alors bien sûr, on a respecté cette position qui était une position naturelle pour elles. Et puis progressivement, avec le temps, avec l'aide de la maman, on a pu progressivement donc les séparer. Et hier, j'ai croisé Yanga dans les couloirs, qui était toute seule. Elle était parfaitement souriante et elle ne pleurait absolument pas.
Voilà, l'opération longuement préparée en amont s'est donc déroulée de façon presque idéale, avec une bonne dose d'émotion quand même au moment du réveil, explique Solène Rémy, pédiatre réanimatrice.
En parlant français, des mots doux, des mots simples, aller dans le contact, on les a fait se toucher. Le contact physique les a beaucoup rassurés, la présence de la maman qui a pu être en permanence dans la chambre. C'était assez émouvant, effectivement.
Alors l'incertitude maintenant, c'est donc ce problème cardiaque pour l'une des jumelles. On saura la semaine prochaine s'il faut prévoir une autre opération qui sera quand même assez lourde. Mais l'objectif reste que les petites puissent rentrer au Cameroun pour Noël, ce qui ferait quand même un beau cadeau.
Jean-Luc Bougeon, correspondant d'Europe 1 à Lyon. Europe 1, vous le révélez mercredi matin, sous la pression du lobby de l'alcool, l'opération janvier sans alcool est annulée. Hier, Agnès Buzyn s'est défendue, disant qu'elle n'avait pas validé l'opération. Pourtant, nous nous sommes procuré le document qui aurait dû être présenté à la presse le 14 novembre. Alors, Ève Roger, à côté de quoi sommes-nous passés ?
Donc, ce document, je l'ai là avec moi. Il nous dit que les Français auraient eu de très bonnes raisons de faire ce janvier sans alcool. La France reste parmi les pays les plus consommateurs d'alcool au monde, est-il écrit, se situant au 6e rang des 34 pays de l'OCDE. Alors, si seulement 10% des Français boivent tous les jours, le document révèle que près de 25% d'entre eux dépassent les repères de consommation en vigueur aujourd'hui, soit 10 verres par semaine. Vous connaissez le slogan, maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. Alors, il rappeler noir sur blanc que l'objectif de ce janvier sans alcool est de faire une pause dans sa consommation et non pas de chercher à arrêter de boire complètement.
Pas définitivement.
Voilà, mais pour les alcooliers, l'intitulé « Janvier sans alcool » était trop ambigu et pouvait faire croire que le gouvernement poussait à l'abstinence, comme le mois sans tabac pousse, lui, à arrêter de fumer définitivement. Enfin, c'est à partir du 18 décembre que l'on aurait pu s'inscrire sur un site dédié pour recevoir, je cite, « des messages de soutien et profiter de trucs et astuces pour relever le défi ».
Merci Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1. Direction le Parc des Princes à présent pour retrouver Julien Froment en direct de ce match d'ouverture de la 14e journée de Ligue 1. C'est Paris qui mène les débats devant Lille.
Exactement, 70 minutes de jeu, 2-0 pour le Paris Saint-Germain face à Lille. Paris qui a fait la différence en première période grâce à un but signé de l'Argentin Mauro Icardi, son sixième en sept matchs de championnat. Mauro Icardi à la réception d'un centre d'Idrissa Gueye. Et puis Paris a doublé la mise juste après la demi-heure de jeu. C'est André Di Maria, l'autre homme en forme du PSG. Alors que là, attention, il y a peut-être un troisième but parisien dans l'arrêt de Mike Maignan devant Mauro Icardi, justement, mais il était de toute façon signalé en position de hors-jeu. Donc je vous disais, André Di Maria, l'autre joueur en très grande forme du côté du PSG, eh bien, est allé inscrire lui le deuxième but pour le Paris Saint-Germain. Et puis les Naïgs aussi, on suit ce soir les pérégrinations de Neymar. Et eh bien Neymar, qui était titulaire, a cédé sa place à la 65e minute de jeu à Kylian Mbappé sous quelques sifflets. Voilà, 2-0 pour Paris après 72 minutes de jeu.
Et on s'en doutait un petit peu. Merci Julien Froment en direct du Parc des Princes pour Europe 1 et tout de suite la météo.
C'est bientôt l'hiver et en hiver, comme en été, les pneus 4 saisons Hankook vous assurent une tenue de route parfaite. Hankook vous présente la météo.
Et on jette un œil donc sur la météo avec vous, Anissa. Vous invitez toute une partie de la France à une grande prudence parce que des départements sont placés encore demain en vigilance orange, pluie, inondation et orage.
Oui, les Naïcs, hein, beaucoup de prudence encore demain avec la poursuite de cet épisode méditerranéen sur le Languedoc, le Var, le Gard, l'Hérault, les Cévennes, la Lozère, l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes et la Corse. De fortes pluies orageuses sont prévues demain, de fortes pluies accompagnées d'un vent de sud-est qui souffle à plus de 100 km/h demain. Sur les reliefs des Pyrénées et des Alpes, ce sont des chutes de neige qu'on attend pour demain à partir de 1200 mètres. Et sur le reste du pays, eh bien, c'est une journée maussade, une vraie journée d'automne. Un temps gris avec du nord à la vallée du Rhône de la pluie. C'est à l'est en fait, hein, tout le long de la façade est de l'Alsace aux Alpes que le temps restera sec mais très nuageux avec des grisailles matinales, des brouillards prévus en Alsace demain matin, soyez très prudents. Les températures, elles sont en hausse grâce au vent du sud, 2 degrés demain matin à Nancy et Strasbourg, 5 à Lille, 9 à Paris. Dans l'après-midi, il fait nettement plus doux, 7 à 18 degrés de Belfort à Bastia, 12 pour Paris.
Et c'était la météo signée Anissa. Dans un instant, vous aurez tout sur la bourse avec Didier Hameau qui nous a rejoint en studio de boursier.com et puis l'invité écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir Minggang Zhang, c'est le directeur général adjoint de Huawei France. Europe 1. Et comme Comme promis, il est l'heure de faire un point à 22h15 sur Europe 1, sur la bourse avec vous, Didier Hamaud de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Annaïque. On débute avec Wall Street qui a terminé la semaine sans tendance claire dans un marché hésitant.
Oui, on tourne un petit peu en roue, en hausse quand même. En hausse sur le Dow Jones, plus 0,39%, 27 876 points. Le Nasdaq, plus 0,16%, 8 520 points. Il ne s'est pas passé grand-chose. Wall Street termine quand même dans le vert cette semaine qui a été très hésitante, toujours à l'écoute des avancées des négociations commerciales entre Américains et Chinois, hein, toujours la même rengaine, ça va un petit peu mieux au dire des dernières rumeurs, on va dire. Alors les valeurs de technologie remontent un petit peu, Amazon plus 0,6%, Microsoft plus 0,1%, IBM plus 0,4%, Apple est stable, $261.78, il y a quand même une baisse assez nette, c'est Tesla, le fabricant de voitures électriques, moins 6%, $333, alors que son nouveau pick-up électrique n'a pas convaincu le marché boursier. Il faut dire que le look est très futuriste, très déroutant même. Le pétrole revient un cran en arrière, $63 le Brent. Le titre Exxon perd 0,4%, $69.37. Sur les devises, ça ne bouge pas non plus. L'euro campe au-dessus des indices, 1,10,20 face au dollar.
Et la bourse de Paris, Didier, gagne 0,2% ce soir dans le calme.
Oui, très timide aussi cette hausse. Une hausse quand même, hein, plus 0,2%. Effectivement, 5 893 points après 4 séances de très léger recul. Les rebonds se sont surtout concentrés sur les valeurs cycliques. Ça remonte sur ArcelorMittal, plus 6,3%, 15,40 €. Là, c'est le broker Exxon qui a confirmé sa recommandation à l'achat en visant un cours un petit peu supérieur à 20,50 €. Arcelor, donc, plus 6,3% ce soir. Ça remonte un petit peu sur SES qui avait beaucoup baissé en début de semaine, plus 1,5%. STM plus 1,5% du côté des puces informatiques et puis Rexel regagne 1%. À noter la FDJ qui a terminé stable ce soir après son envolée d'hier pour ses premières cotations. La FDJ ce soir, 22,70 € à la clôture.
Et notre exception du jour, Didier, c'est Edenred, le titre qui recule et qui a fait l'objet d'une attaque informatique.
Oui, le leader des solutions de paiement et des tickets restaurants a chuté de 2,5%, 45,45 € après avoir fait l'objet effectivement d'une infection informatique de ces systèmes internes par des logiciels malveillants. Alors, on n'en sait pas plus pour l'instant, les dégâts ne sont pas quantifiés, mais évidemment, par prudence, ça fait baisser le titre de 2,5% ce soir, Edenred, à 45,45 €. Sur les autres places financières, le DAX à Francfort, plus 0,2%, de tout petits écarts aussi, hein. Bruxelles, plus 0,10%, Milan, moins 0,10%. On rappelle le CAC 40 en hausse de 0,2%, 5 893 points.
Eh bien, merci pour ce tour d'horizon. C'était Didier Hamaud de boursier.com. Et on passe à l'interview éco, comme tous les soirs avec Emmanuel Duteil.
L'invité éco avec laposte.fr/pro pour envoyer des lettres recommandées en ligne avec la même valeur juridique qu'un recommandé classique.
Et votre invité, Emmanuel, c'est Minggang Zhang, directeur général adjoint de Huawei France. Et on va voir justement comment la société réplique à ces éventuelles sanctions américaines.
Minggang Zhang, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général adjoint de Huawei en France. Alors, on a beaucoup parlé de Huawei ces derniers mois, mais surtout à cause de vos ennuis avec les États-Unis, hein, puisque Donald Trump veut interdire les entreprises américaines de travailler avec vous. Il devait appliquer des sanctions, mais finalement, ça a encore été un petit peu repoussé, là, il y a quelques jours, de 90 jours. Si vous êtes dans cet embargo, c'est que Donald Trump estime que vous, Huawei, entreprise indépendante et privée chinoise, vous les écoutez. C'est vrai, vous avez des mouchards partout ?
Merci d'avoir invité. Si il y a des mouchards partout, comme vous dites, ça le sera il y a longtemps. Avec 30 ans d'existence sur le marché international, qu'on est présent à peu près partout dans tous les pays, ces genres de problèmes-là, on le découvre, je dirais pas tout facilement, mais pas difficile. Donc aujourd'hui, face à ces accusations, on demande tout simplement des preuves, puisque tous ceux qui travaillent avec nous, je parle des opérateurs, des grandes entreprises, etc., ils ne sont pas convaincus. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas quitté le navire de Huawei.
Ce que vous dites, c'est prouvez-nous qu'il y a des mouchards. Nous, on assure qu'il n'y en a pas. Quel a été l'impact sur les ventes de Huawei? Est-ce que la croissance s'est ralentie à cause de cette affaire?
Le fait de le mettre dans la liste de l'embargo, évidemment, ça nous impacte. Par contre, Huawei a préparé une non-dépendance technologique depuis 2004. Donc, de ces points de vue, on l'a pas prévu qu'on est dans la liste de l'embargo, mais par contre, vous savez, Huawei, c'est une entreprise privée de 188 000 personnes, présente en 170 pays, plus de 170 pays, et avec un chiffre d'affaires en 2018 de plus de 100 milliards de dollars. Et on l'a pu investir massivement dans la recherche et développement, c'est pour ça.
Ce que vous dites, finalement, vous pouvez nous mettre sur votre liste, ça ne nous fait pas mal, parce qu'aujourd'hui, on est un géant mondial qui est totalement indépendant des technologies américaines. C'est ça que vous dites ?
Ce n'est pas exactement ça. D'abord,
c'est un petit peu ça.
Je ne dis pas qu'on est un géant. Oui, on a une certaine taille et oui, on a une certaine capacité d'innovation, recherche et développement. Dans ces cas-là, l'impact sur l'eau, oui, il y en a, certainement. Mais
il y en a, mais vous êtes capable d'y faire face.
Grâce à cette préparation de non-dépendance technologique, on dispose quand même une bonne partie des solutions technologiques, nous-mêmes.
Quel a été l'impact sur les ventes de Huawei ? Est-ce que la croissance s'est ralentie à cause de cette affaire ?
Ce que je vous donne comme chiffre, vous allez comprendre tout de suite. On parle de 9 premiers mois de 2019. On a eu une croissance en fait de 24,4% de croissance dans le monde. D'accord ? Et on a atteint le même chiffre, 200 millions de smartphones vendus l'année dernière, mais cette année, on a atteint ces chiffres-là le 20 octobre.
Ce que vous dites, ça a peut-être pu un peu ralentir notre croissance, mais ça va quand même très bien pour nous. Est-ce que, par exemple, en France, vous avez dû, certains le disent, baisser vos prix, brader un peu vos téléphones au pire moment de la crise ?
Non.
Vous assurez que vous n'avez pas bougé au prix. Il n'y a pas eu de politique commerciale pour essayer de continuer de convaincre les clients.
Non. Les clients sont convaincus par la qualité, par l'innovation, par la facilité d'usage de nos smartphones, puisque vous parlez de smartphones. Aujourd'hui, en fait, il y a cette marque Huawei qui devient une marque synonyme de qualité et synonyme de qualité extraordinaire des images.
Vous êtes le deuxième vendeur de téléphones en France, hein, devant Apple, on ne le sait pas toujours. Noël, un moment énorme pour vous ?
Certainement, comme pour tous les fournisseurs, comme pour tout le monde.
Il se présente bien ce Noël, là, 2019 ?
Certainement.
Alors, votre autre très gros marché en France, puisqu'à la rigueur, c'est bien de vendre des téléphones, mais vous êtes aussi l'un des leaders dans le monde de ce qu'on appelle la 5G, la prochaine technologie qui va nous permettre, par exemple, de télécharger des films encore plus vite et d'avoir plus facilement accès à Internet sur nos téléphones. Vous êtes de très loin, et là-dessus, tout le monde est d'accord, le leader en matière technologique, mais là encore, à la suite des affaires américaines, certains pays disent « on ne veut pas de Huawei dans nos équipements pour la 5G ». En France, vous êtes bien dans les appels d'offres pour les opérateurs comme Bouygues, comme Orange et autres ?
Globalement, depuis le 16 mai, jusqu'à aujourd'hui, on a signé plus de 20 contrats de 5G, de contrats commerciaux, dans le monde entier, donc quelques-uns aussi en Europe, dans les pays européens.
En France,
vous savez que les fréquences ne sont pas encore attribuées, donc
c'est même un petit peu repoussé.
On ne peut pas parler de contrats, on ne peut pas parler en fait de tout ça d'une
Mais
façon commerciale.
Mais vous êtes confiant sur votre capacité à convaincre les opérateurs français de faire appel à vous pour construire leur réseau 5G ?
D'une façon tout à fait naturelle, grâce à ces innovations, grâce à ces, on va dire, l'importance de cette technologie et surtout l'importance en fait de développer cette nouvelle technologie. De ces points de vue, on est très confiant. On travaille étroite en collaboration avec les opérateurs pour réaliser les tests qui sont ailleurs produit des résultats excellents.
Huawei, c'est 1000 collaborateurs en France. Vous soutenez également des startups en France. La France est un vrai marché important pour vous et vous comptez vous y développer puisque, a priori, il n'y a pas de sanctions contre vous ici. Donc, quitte à être sanctionné aux US, il faudrait investir encore un peu plus chez nous.
Absolument. Que les attaques en fait, américaines, etc., qui nous a balayé en fait, sur le marché américain, de ces points de vue, évidemment, l'Europe devient aujourd'hui un marché encore plus important et un marché incontournable. Vous savez que on n'a pas attendu en fait cet embargo américain, etc. On l'a développé quand même depuis 20 ans en Europe. On a des centres de recherche un peu partout dans tous les pays européens. On a 5 centres de recherche également en France. Donc, si vous voulez,
est-ce que vous comptez vous développer encore plus chez nous ?
Absolument. Dans ces situations aujourd'hui, que je disais en fait que le marché européen devient un marché encore plus important et presque, on peut dire, vital, évidemment, on travaille sur une nouvelle stratégie d'investissement en Europe et donc évidemment en France.
Ça veut dire qu'il pourrait y avoir des emplois créés
Ça veut dire qu'il pourrait y avoir d'abord plus de collaboration dans la recherche et développement. Dans les domaines encore plus critiques, une partie de cette technologie 5G clé et la poêle en France. Et ça pourrait se renforcer. Évidemment, on parle de la 5G, mais on parle aussi de différentes applications dans la 5G. On parle aussi d'intelligence artificielle, etc. Et le deuxième volet sur l'investissement, évidemment, des centres de compétences, des centres d'ingénierie, des centres de fabrication, qui pourraient également implanter en Europe et pourquoi pas en France.
Eh ben, ce sera l'occasion de vous réinviter pour ça. Un grand merci, Ming Gangzhang, d'avoir été notre invité ce soir sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint de Huawei en France. On se retrouve, nous, lundi sur Europe 1 à 22h20.
Et merci beaucoup, Emmanuel Duteil. On retrouve également votre interview en intégralité sur notre site europe1.fr.
C'était l'invité éco avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour envoyer des lettres recommandées en ligne avec la même valeur juridique qu'un recommandé classique.
Et restez avec nous dans un instant. On jette un œil à vos unes de la presse, des journaux de demain. C'est tout de suite sur Europe 1. Et voici donc ce que vous découvrirez à la une de vos journaux et magazines demain. Libération, tout d'abord, qui consacre un grand dossier à cette marche, cette manifestation, à l'appel du collectif Nous Toutes, vaste mobilisation contre les violences sexistes et sexuelles dans les rues de Paris. Les manifestantes espèrent voir déferler sur la capitale une vague violette. Cette marche intervient au moment où le Grenelle des violences conjugales touche à sa fin. L'année dernière, à la même époque, 60 000 personnes avaient défilé dans toute la France, dont la moitié à Paris. Cette question à la une du Figaro demain. Faut-il avoir peur de la viande de laboratoire ? Le journal se penche sur ces steaks issus de cellules animales et fabriqués in vitro. Elles arriveront dans nos assiettes d'ici 5 ans. Éleveurs et bouchers tirent déjà la sonnette d'alarme. Et surtout, si un jour c'est commercialisé, comment faudra-t-il l'appeler ? L'Alsace se penche de son côté sur le chauffage au fioul. Dans son édito, Laurent Baudin écrit qu'il n'aura pas disparu en France en 2028, comme s'y était engagé Édouard Philippe il y a un an. Pourquoi ? Faute d'une véritable volonté politique, titre notre confrère, c'est une usine à gaz qui met la France en surchauffe. Le Monde Week-end parle à la rencontre de Robert De Niro et Martin Scorsese et nous raconte les retrouvailles entre ces deux hommes qui ne se sont jamais quittés très longtemps. À plus de 75 ans, ils ont de nouveau collaboré dans The Irishman qui sera diffusé sur Netflix fin novembre. De Niro Scorsese, même génération, mêmes origines italiennes, même jeunesse new-yorkaise agitée. Ils se sont retrouvés, ils y se sont trouvés il y a pratiquement 50 ans. Et puis on partira à l'ouest de la France également, avec le nombre de personnes qui souffrent de troubles psychiatriques et qui augmentent. C'est dans Ouest France, demain, à lire un grand dossier. Le système a du mal à y faire face. C'est un reportage à suivre également sur les personnes en situation de handicap qui ont créé leur entreprise. Un moyen de créer son emploi et de l'adapter à sa santé. Voilà donc pour le tour d'horizon des unes de vos journaux. Vous y retrouvez demain, évidemment, en kiosque. On vous souhaite une très bonne soirée sur Europe 1, en faisant tout de même un petit détour par le Parc des Princes, où nous retrouvons Julien Froment, puisque ça se termine en ce moment, tranquillement, pour le Paris Saint-Germain qui reçoit Lille ce soir.
Exactement. Encore 2 minutes dans le temps réglementaire de cette seconde période. Le PSG qui mène assez logiquement 2-0 face à Lille grâce à des buts signés Icardi à la 17e et Di Maria à la 31e, un Paris Saint-Germain devant au tableau d'affichage, mais pas si souverain que ça sur le terrain. C'est vrai que les Lillois se sont créés pas mal d'occasions et qu'il a fallu un très bon Keylor Navas pour empêcher les Lillois de marquer ce soir. Mais pour le moment, bien Paris, qui est souverain en Ligue 1, leader avec 30 points, bien Paris a su faire la différence face à cette équipe de Lille et prépare à merveille son déplacement de mardi prochain que vous pourrez suivre sur Europe 1, ce match de Ligue des Champions face au Real Madrid.
Julien, c'était le retour également de Neymar ce soir. Les supporters du Parc des Princes, manifestement, n'ont pas tellement apprécié sa petite escapade à Madrid pour aller voir la Coupe Davis, où il était quasiment seul dans les gradins, mais en tout cas, il n'était pas à Paris.
Oui, alors plus globalement, surtout, ils n'ont peut-être pas encore digéré la volonté de Neymar de quitter le PSG cet été. On le rappelle, il voulait retourner au FC Barcelone. Et donc c'est vrai qu'au moment de sa sortie à la 65e minute de jeu, eh bien, il a été un petit peu sifflé par une partie du Parc des Princes, pas l'intégralité du stade, mais c'est vrai que quelques sifflets sont tombés des travées contre le Brésilien. À noter qu'à l'inverse, deux salles, deux ambiances, quand Edinson Cavani est entré, eh bien là, tout le Parc des Princes a applaudi la rentrée de l'Uruguayen. Donc voilà. Donc 2-0 toujours pour Paris alors que le match va bientôt se terminer.
Merci beaucoup Julien Froment en direct du Parc des Princes. Et bonsoir Sabine Marin.
Bonsoir Lénaïque.
Vous accompagnez les auditeurs d'Europe 1 toute la soirée. Un numéro de téléphone évidemment pour vous joindre le 39 21.
Et rendez-vous avec vous dans une demi-heure pour les prochaines infos.
À tout à l'heure.